Voilà, on reprend avec du retard comme d'habitude. Je vous signale que j'ai repris le cours et on est en direct, comme vous le savez. On est à la page 260 dans le Tzemar Tzedek, Shoresh Mitzvah Tatfila. On est aujourd'hui le 10 décembre et le 13 Kislev. Et on est à la page 260, comme je l'ai dit. On reprend, on est pratiquement plus ou moins vers le milieu. On a parlé hier longuement du libre arbitre et on est, voilà, on est ici, mamash au milieu. Ubechelek bet perektet, dans le deuxième chapitre, dans la deuxième partie, pardon, et le chapitre 9 du Tanya, et Rir Bezé, le Balatanya explique en détail, qui, Vekatav Sham Be'aga, et il écrit là-bas, dans la marge, c'est dur à démarrer ce matin. Veder Inyan Amshacha, il explique donc comment se fait cette Amshacha, comment se fait cette connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Veher Uma Yadua la Maskilin Soda Tzimtzum, et il explique là-bas ce qui est connu de ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah les maskilim, ceux qui connaissent, les savants, on pourrait dire les savants des secrets, qui connaissent Sod, qui connaissent le secret à Tzimtzum de ces contractions qui, comme on le sait, ces contractions ont permis donc de passer de l'infini au fini. L'un des plus grands, on pourrait dire, secrets que révèle le Hari HaKadosh, puisque toute la Kabbalah du Hari HaKadosh est fondée sur le principe du Tzimtzum, des différentes contractions de l'infini pour arriver jusqu'à nos mondes finis. Et donc, Sod HaTzimtzum, de Or En Sof, dans cette énergie ou cette lumière infinie, V'Tzimtzum Adam Kadmon, ainsi que, pas seulement, le premier Tzimtzum qui a été opéré à l'intérieur du Or En Sof, de la lumière infinie, mais après il y a eu une succession d'autres Tzimtzumim, puisque les contractions sont successives, jusqu'à ce qu'on arrive à nos mondes qui sont les derniers, les plus limités. Et donc après le premier Tzimtzum dans le Or En Sof, il y a eu un autre Tzimtzum dans le Adam Kadmon, dans le modèle fondamental dont on a déjà parlé ces derniers cours. Vesod HaDikna, et il y a aussi dans la Kabbalah le fameux secret de la barbe. Excusez-moi la traduction. Sod HaDikna, Dikna est en araméen, Zaken, ou Zakan plutôt, Zaken, le vieillard, Zakan, en hébreu, Dikna, en araméen. En araméen, le Dalet est à la place du Zayn. Zaken, en hébreu, Diken, en araméen. Et pourquoi il y a un Aleph à la fin? Parce que dans la grammaire et araméenne, pratiquement tous les mots se terminent par un Aleph. Donc, Dikna, le secret de la barbe. Chez Sod Kola Tzimtzumim, le Tzamtzem Aor chez Itlabej et Prinat Kelim de Or En Sof. Et donc je termine la phrase. Et le but fondamental de toutes ces contractions est de permettre finalement l'entrée, l'habillement de l'énergie dans des réceptacles finis. On pourrait, disons, regarder l'énergie au départ, d'abord dans sa dimension infinie, comme quelque chose d'extrêmement puissant, sauvage, qui refuse les limites et qui fait tout sauter sur son passage. Quand je dis tout sauter sur son passage, je fais allusion à une notion très connue dans la Kabbalah qui est le Shvirat HaKelim, l'explosion du monde qu'on appelle le monde du Tohu. On l'appelle le monde du Tohu, Tohu en français, parce que justement il a explosé. Après, en français, quand on parle de quelque chose de fou, de sauvage, d'explosé, on dit c'est du Tohu Bohu. Et donc le monde du Tohu est un monde justement dans lequel les réceptacles n'étaient pas suffisamment puissants pour pouvoir contenir l'énergie qui est rentrée. Ou dit d'une autre manière, l'énergie qui est rentrée dans ces réceptacles n'était pas encore suffisamment contractée pour accepter les limites. Et en rentrant dans ces réceptacles, elle a tout fait sauter. Et donc tout le problème est d'arriver à un certain nombre de contractions pour que, sauf kol sauf, la lumière puisse rentrer dans le Keli. On va expliquer ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Quel est le Nimshal, comme on le fait toujours, à quoi ça fait allusion tout ce charabia? Mais en tous les cas, ça c'est la description. Avant d'expliquer le Nimshal, je vais revenir donc à ce à quoi il fait allusion. Il dit une des étapes des contractions C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le secret de la barbe. Alors il faut savoir effectivement, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'un des passages les plus secrets, les plus mystérieux et les plus complets, on pourrait dire, au niveau de tous les principes de la Kabbalah, se trouve dans les deux parties du Zohar qu'on appelle Hidra Rabba et Hidra Zuta, c'est-à-dire donc, on pourrait dire, la grande pièce et la petite pièce, bien que ce n'est pas vraiment Hidra, ce n'est pas vraiment une pièce, c'est plutôt un endroit dans un champ, enfin peu importe, la grande réunion et la petite réunion, où là-bas, Rabbi Shimon bar Yochai a dévoilé à ses élèves tous les secrets qui contiennent l'ensemble des grands, grands, grands principes de la Kabbalah. On pourrait dire d'une certaine manière que toute la Kabbalah du Hari HaKadosh est fondée sur les secrets révélés dans le Hidra Rabba et Hidra Zuta. Et là-bas, Rabbi Shimon bar Yochai a choisi, pour cacher ce dont il fait allusion, il a choisi, on pourrait dire, la métaphore des cheveux et de la barbe. Vous savez que les maîtres d'Israël, dès qu'ils parlent de quelque chose d'extrêmement profond et qu'ils ne veulent pas que ça tombe entre toutes les mains, voilent leur enseignement par des histoires ou par des dessins ou par tout ce que vous voulez. Et dans le cas de ces secrets-là, Rabbi Shimon a choisi de tout enfermer, de tout cacher, d'ailleurs on pourrait dire le cuir chevelu. Et donc les plus grands secrets de la Kabbalah sont enseignés là-bas selon le code des poils de la barbe, et ils parlent là-bas des parties de la barbe qui sont ici, des parties de la barbe, la moustache qui sont là, les parties de la barbe qui sont ici sont les pommettes, il y en a un petit peu comme vous voyez, les parties de la barbe qui sont ici, il y en a un tout petit peu aussi, et surtout les parties de la barbe qui sont là, celles qui descendent, celles qui sont sur le cou, etc. Et donc, évidemment, celui qui n'est pas initié, celui qui n'a pas les clés, donc il termine très vite son étude en disant « ben ça me barbe, c'est moi qui l'ai sorti cette fois-ci, d'accord ?» Je vous ai devancé. Vous connaissant, je savais ce que vous aviez envie de dire, je vous ai devancé. On apprend à se connaître quand même, très bien. Et donc, il termine au bout de 5 minutes son étude en disant « ça me barbe ». C'est peut-être de là vient l'expression, je ne sais pas en tous les cas. Peut-être que ceux qui ont étudié ce passage du Zohar il y a quelques siècles et qui ne comprenaient rien ont effectivement dit « mais ça me barbe » et c'est comme ça qu'est restée l'expression en français. Bon, peu importe. En tous les cas, il y a des clés pour décoder tout ça, et quand on a les clés, on s'aperçoit qu'on rentre dans un monde inimaginable et qui fait allusion à des choses absolument invraisemblables par leur profondeur. Malgré tout, on sait qu'il y a les maîtres d'Israël, lorsqu'ils codent un enseignement, ils choisissent toujours un code qui, malgré tout, a un lien, ne serait-ce qu'infime, avec son décodage. Parce qu'ils ne vont pas parler d'une chose en l'enfermant dans quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que le machal doit toujours avoir un certain lien avec le nimshal. Et donc, automatiquement, on est obligé de dire, puisque Rabbi Shimon a choisi donc de présenter ces secrets-là sous la forme des différentes parties de la barbe, faut-il donc croire qu'effectivement la barbe représente, même au niveau du pshat, comme je vous l'ai déjà dit à de très nombreuses reprises, et tant pis pour ceux qui ne sont pas barbus dans ce cours, que la barbe représente des choses absolument incroyables. Je crois que je suis le seul d'ailleurs. Non, là-bas il y en a un petit peu, voilà, oui. Et le comment ? Ah non, oui, excusez-moi, parce que j'ai mes lunettes pour voir de près, donc je ne vois pas de loin, excusez-moi. Il y en a effectivement plusieurs. Mais oui, il y a les mal rasés aussi, bon, d'accord. Ceux qui n'ont pas eu le temps, qui descendent de l'avion, là, et qui n'ont pas eu le temps de se raser. Bon, c'est pas grave. Comment ? Voilà, il est Gainsbar. Et donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de porter la barbe facilite notre connexion avec ces notions extrêmement secrètes, et on sait effectivement maintenant, pour revenir à des choses plus proches de nous, que c'est extrêmement important pour un juif d'avoir une barbe. C'est pour ça que la Torah interdit de se raser avec une lame de rasoir dans les différentes parties qui permettent de faire pousser la barbe. On a le droit avec des ciseaux, on n'a pas le droit avec une lame, mais en tous les cas, on voit que la Torah parle de la notion de la barbe, et à plus forte raison, si on la laisse pousser, ça nous permet donc d'avoir des connexions extrêmement sensibles avec les mondes cachés et avec des lumières et des énergies extrêmement puissantes dont l'âme a besoin. En tous les cas, on va maintenant revenir à ce qu'il explique. il y a donc toute une série de contractions. Il a parlé de la première contraction qui est dans le Orensof, puis il y en a une autre dans le Adam Kadmon, puis après dans ce qu'on appelle le Olama Dikna, dans le monde de la barbe, etc. etc. Ben, à quoi ça fait allusion tout ça? Je ne vais bien sûr pas expliquer chacune des étapes en tant que telle, car ce n'est pas le but, mais expliquer globalement de quoi il s'agit. Ben, c'est tout le sod de la Yahadout, c'est tout le sod du judaïsme, et c'est, on pourrait dire, le fondement de la Torah, ce que pratiquement aucune des autres religions n'a compris, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, elles se perdent toutes dans une abstraction sans être capable véritablement de tenir et de se connecter au divin. Et c'est quoi en vérité le sod? Le sod de la contraction. Ben, prenons un exemple, les téphilines. Les téphilines, c'est un réceptacle, d'accord, qui vont permettre, on prend toujours cet exemple-là, parce que d'ailleurs le mot téphiline vient du mot leitpatel, qui veut dire se connecter en bon français, d'accord? Ben oui. Naphtali, quand elle a eu son enfant Léa, Naphtali, pourquoi elle l'a appelé Naphtali? Du mot tefilin, du mot tefila, du mot pitoul, du mot pétil, techelet, pétil, pétil et titit, pétil. C'est tout, c'est le même mot, le fil, la connexion, le chibour, le lien. Donc pourquoi elle a appelé son enfant Naphtali? Parce qu'elle a dit maintenant, j'espère que mon mari va enfin s'attacher à moi. Chaque fois qu'elle avait un enfant, elle espérait que Yaakov va se détacher de Rachel qui n'a pas d'enfant et va venir vers elle. Et donc elle a appelé Naphtali dans un langage de connexion, que mon mari se connecte à moi. Maintenant les téphilines, c'est pratiquement la seule mitzvah qui porte véritablement le nom de la connexion. Qu'en irait que c'est plus que toute autre mitzvah, la mitzvah qui permet une connexion avec le divin. Donc, tfila, je parle d'une mitzvah dans le sens d'un acte, d'un objet, pour bien montrer la notion de réceptacle. Bien sûr, la tefila, c'est le même mot. D'ailleurs, vous savez que dans le Talmud, les tefilines sont appelées tefila.
Téléphone. Bon,
comment ?
Téléphone.
Sont appelées tefila, téléphone. Et donc, pourquoi je prends encore une fois l'exemple des tefilines ? Parce que c'est un objet et un réceptacle. Maintenant, que représentent les téphilines? Ça représente la volonté d'un homme de se connecter à Dieu. Et tous les hommes veulent se connecter à Dieu. Toutes les religions prétendent proposer un chemin, une voie pour se connecter à Dieu. Le problème, c'est est-ce qu'on se connecte à Dieu ou on se connecte à nos fantasmes? Est-ce qu'on entend des voix et on s'appelle Jeanne, ou bien ou véritablement on a une connexion? Parce qu'on sait très bien que le cerveau humain peut produire toutes sortes de fantasmes et que l'homme peut s'imaginer qu'il a des révélations, qu'il est illuminé, etc. etc. Et en vérité, soit il a pris une bonne dose de hashish avant, soit il a bu un petit peu d'alcool, soit c'est un quelqu'un qui a un tempérament de drogué. Ça veut dire qu'il a une capacité de soi-disant capter des choses qui ne sont que les fantasmes de son cerveau. Donc ça, c'est le problème fondamental. On sait très bien que des millions d'hommes dans toutes les religions ont prétendu s'être connectés à Dieu, mais en vérité c'était des imbéciles qui ne se sont connectés qu'à leur nombril. Donc comment qu'on peut se connecter réellement? Ça a été le problème fondamental posé par la Torah. Est-ce que je me connecte ou bien je suis dans un pur fantasme? Alors toute la Kabbalah explique ce problème-là et elle dit qu'effectivement ça a été au départ, on pourrait dire, le problème que Dieu s'est posé à lui-même. Comment, moi, étant infini, je peux me connecter ou je peux permettre à des créatures finies de se connecter à moi qui suis infini? C'est absolument impossible. Donc, le premier à avoir posé cette question, c'était Dieu lui-même, explique les Mekoubalim. Comment pouvoir lier deux choses qui sont à ce point différentes? Alors, la Kabbalah explique qu'il y a eu toute une suite de tentatives dont certaines ont échoué, par exemple le fameux Olam HaTohu, où à un certain moment, on pourrait dire, Dieu a essayé de créer une connexion et ça a explosé. Alors bien sûr, c'est pas qu'il ne savait pas que ça allait se passer. Bien sûr que tout était pensé et prévu au départ. Alors pourquoi il a voulu créer une connexion qui lui a explosé à la figure? Justement, pour pouvoir créer les principes du vrai et du faux. Le Olam HaTohu est l'exemple même d'une connexion qui ne marche pas. Et donc Dieu a créé ce principe d'une connexion qui ne marche pas, et une connexion qui ne marche pas s'appelle tohu, folie. Dans notre monde concret et humain, à quoi correspond une connexion du type tohu? Tout de suite, le fanatisme. Puisque nos maîtres expliquent que, qu'est-ce que c'est l'explosion du olam tohu? C'est que les sphirot, les attributs divins qui se trouvaient dans ce monde, ne se supportaient pas les uns les autres. Chacun voulait remplacer l'autre, chacun voulait bouffer l'autre, et par cet excès, on pourrait dire, d'intolérance, il y a eu l'explosion. Donc, il n'y a pratiquement rien à déchiffrer, puisque les Mekoubalim eux-mêmes disent ce qui s'est passé. Ça veut dire donc l'exclusion, l'intolérance, traduit en français, le fanatisme. Toute religion fanatique, qui ne supporte pas l'autre et qui n'accepte pas l'autre, toute tendance fanatique qui ne supporte pas l'autre et qui ne l'accepte pas, ou de même toute religion prosélyte qui ne supporte l'autre que quand il est comme moi, puisque le fanatisme et le prosélytisme c'est exactement la même chose, soit on annule l'autre, soit on le rend comme moi, donc on l'a annulé en tant qu'autre, en tant que différent, toutes ces religions-là sont les religions du tohu, les religions de l'explosion, les religions du mensonge et du fantasme. C'est pour ça que c'était pas une religion là-bas. C'est pour ça que la seule religion, on pourrait dire acceptable, c'est une religion qui ne prône pas le prosélyte et qui ne prône pas la guerre sainte. Si vous prenez les deux fausses religions, vous avez compris que l'une va prôner le djihad et l'autre va prôner le prosélytisme, quand ce n'est pas les croisades, bien sûr. Et donc les deux montrent qu'elles sont fausses, en ce sens qu'elles n'ont pas de connexion avec le divin, parce que si elles étaient connectées au divin, elles ne chercheraient ni à faire une guerre sainte, ni à faire du prosélytisme. Parce que Dieu est avant tout contraction, il laisse de la place à l'autre, il supporte l'autre, et il sait, on pourrait dire, se contracter, pour justement ne pas prendre toute la place, qui est le contraire de la guerre sainte et ce qui est le contraire du prosélytisme. Donc c'est pour ça que la Torah est le modèle même, on pourrait dire, de l'essence divine, dans la mesure où elle ne prône ni la guerre sainte, ni le prosélytisme. Comment ? Il ne prône pas sa religion. D'accord. Ce que Avraham prône, c'est l'existence. Vaïkra Avraham. Il prône le monothéisme. Ça veut dire qu'il prône l'existence, il dévoile l'existence d'un Dieu. Mais il ne vient pas avec un glaive ou avec un tout ce que vous voulez pour dire à l'autre, sers Dieu comme moi je le sers. Il explique qu'il y a un Dieu et que c'est lui qu'il faut servir. Mais il ne vient pas t'imposer sa manière de servir. Par exemple, donnons un exemple simple. La religion, entre parenthèses, d'Abraham tourne essentiellement autour de l'hospitalité, la bonté, la générosité. On ne voit nulle part dans la Torah que Abraham essaye d'imposer son modèle à un autre que lui-même. Plus que ça, je vous remercie pour votre question, tellement elle vous permet de, on pourrait dire, de renforcer ce qu'on dit. Quel a été finalement le seul véritable élève de Abraham, le seul qui lui est resté? Son fils Yitzhak. Et son fils Yitzhak qui est le modèle à l'extrême opposé du père, puisque Abraham incarne la bonté, l'ouverture, et Yitzhak incarne la rigueur, la justice et la fermeture. Et donc, Abraham molid et Yitzhak. Pourquoi la religion de Abraham est vraie et la seule vraie? Parce qu'elle est capable d'engendrer son contraire. Elle supporte son contraire. Elle fait naître son contraire. De là, là ici, la Torah cache un secret extraordinaire. Toute religion qui te dit « Sois comme moi et tu auras le salut » est un mensonge. Toute religion qui te dit « Sois comme tu dois être » d'accord, et trouve ta manière à toi d'arriver au Créateur est une religion vraie. C'est le judaïsme qui dit à tout le monde « Soyez ce que vous devez être. » On ne vous demande pas d'être juif. Soyez ce que vous devez être. Mais servez un Dieu un, car il n'y en a pas un autre que lui. Et si tu ne veux pas, on ne va pas sortir une épée pour te faire Allah Akbar et t'obliger à le servir. Donc,
d'où les lois noahides.
Quoi, d'où les lois noahides, etc., bien sûr. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il crée deux systèmes. Il crée le système faux, qui est le Olam HaTohu, ça veut dire le système de l'intolérance et du fanatisme, auquel vont appartenir toutes les fausses religions, et il va créer le système vrai, qui est celui dans lequel la lumière rentre dans le réceptacle, ça veut dire ce qu'on appelle le Olam HaAtzilut, ainsi que tous les autres mondes qui suivent, donc Atzilut, Bria, Yetzire, Asiya, les quatre mondes par rapport aux quatre lettres du nom divin Yud, E, Vav, E. Et dans ces mondes-là, l'avantage est, c'est que la lumière se limite, elle est à l'intérieur d'un réceptacle, et chaque réceptacle va accepter le deuxième, et le troisième, etc. Donc on mettait les 10 réceptacles qui incarnent l'ensemble des 10 possibilités, des 10 facettes de l'univers, des 10 facettes du monde. Ah maintenant, c'est ça le sort de la mitzvah. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? Prenons l'exemple des téfilim. Je veux me connecter à Dieu, je veux ressentir Dieu, je veux créer un lien avec lui. Alors tu demandes à Pierre comment qu'il veut faire. Pierre, il va dire, ben moi je vais monter sur une montagne une demi-heure par jour. Tu demandes à Shimon, qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi je vais me mortifier. Tu demandes à Réhouven, et toi qu'est-ce que tu vas faire? Dire, ben moi je vais faire la charité. Chacun va venir avec sa manière, etc. Donc automatiquement, on n'a pas véritablement le réceptacle qui permet de capter cette lumière, puisque chacun prétend que son réceptacle c'est le bon. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Torah dit, je vais vous donner un réceptacle qui crée la connexion. Ce réceptacle, c'est les tefilines. Quand vous mettez les tefilines, à ce moment-là, vous vous connectez à moi, grâce et surtout avec une connexion qui vous permet d'être connecté véritablement à moi et non à vos fantasmes. Et comment je vais savoir que je suis connecté à lui et pas à mes fantasmes? C'est qu'automatiquement, ça va faire naître en moi le shalom, le respect, la tolérance, etc. Et dès que j'essaye de me créer moi mon propre réceptacle, c'est-à-dire je refuse les mitzvot, qu'est-ce qui va se passer? On va entrer dans le monde de la guerre des réceptacles, la guerre des religions, où chacun va venir et va prétendre non, mon réceptacle est meilleur que le sien. Vous avez déjà vu un juif au monde qui tue quelqu'un parce qu'il ne met pas les tefilines? Non. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Pourquoi? Parce que comme je suis connecté véritablement à Dieu, je suis comme lui, tolérant, et j'accepte la différence. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un juif qui tue pour que les autres mettent les tefilines. Par contre, dans toutes les autres religions, vous verrez des juifs qui, vous verrez des hommes qui tuent parce qu'on ne fait pas comme ce qu'eux disent. Ils n'ont pas de réceptacle, ils n'ont que du tohu, c'est pour ça qu'ils explosent, et ils font exploser tout le monde. En ce qui concerne l'islam, l'image est tellement évidente, je veux dire, ils explosent, et en explosant, ils font exploser tout le monde. C'est, en tout cas dans notre monde moderne, l'expression même de la religion du tohu. Et c'est pour ça qu'ils explosent. Oui.
Une question un peu pertinente.
Ça c'est un droit. Oh, c'est toi. C'est toi qui le dis.
Est-ce que notre neshama peut être du monde du...
Quel plateau?
Tohu, notre Yetzerara, il vient du monde du Tohu, pas notre Neshama. Une Neshama, c'est forcément bon, donc elle ne peut pas venir du monde du Tohu. Le Yetzerara vient du monde du Tohu. Le Yetzerara, justement, c'est l'intolérance, le fanatisme, etc. Et donc, c'est quoi ça? C'est les extrêmes. Manger trop, dormir trop, s'amuser trop, etc. Le Yetzerara, c'est le trop. Le trop, c'est le Tohu. Donc le refus de la limite, le refus du réceptacle. Le Yetzerara Tov, c'est la limite. Le Yetzerara, c'est dépasser les limites.
Ça veut dire que quand il a créé ce monde, il a rayé totalement le tout, quoi. Il a gommé tout.
Bien au contraire, il l'a créé pour qu'il lise. Alors, s'il n'y avait pas de tout, il n'y aurait pas d'Yetzerara. S'il n'y avait pas de tout, il n'y aurait pas d'islam. Donc automatiquement, il n'a rien rayé du tout. Il l'a créé. Il a créé le principe du refus d'autrui. Il a créé le principe du refus de l'autre. Il a créé le principe de l'intolérance. La fausse religion qui est le Olam HaTohu. Maintenant, attention, on prend l'exemple de l'islam, mais c'est vrai à l'intérieur de nous aussi, à des proportions infiniment plus réduites. À chaque fois que je pense que celui qui n'est pas dans le même type de pensée que moi, la même manière de servir Dieu que moi, quand je pense qu'il se trompe, quand je parle d'un autre juif, à mon petit niveau, je suis dans le Olam HaTohu. Absolument. Absolument. Et donc, dès que mon refus de l'autre se traduit par une méchanceté, je suis dans l'Olam HaTohu. Attention, je ne dis pas qu'il faut accepter l'autre au point d'être comme lui. Je n'ai pas envie d'être comme celui qui va danser dans une boîte de nuit le vendredi soir. Je refuse catégoriquement sa manière d'être. Mais je ne le hais pas. Et je ne vais pas lui faire du mal parce qu'il est comme il est. Donc, vadai que tu refuses le système de l'autre si tu penses qu'il est dans l'erreur. Mais si ça, mais ça ne doit pas se traduire par une méchanceté à son égard.
Où est-ce qu'on place l'empêchement de vouloir
épouser? J'ai tellement de mal à comprendre la question que je ne sais pas comment je peux la répondre.
Tu n'as pas la même chose.
Je suis d'accord avec vous.
C'est quoi un empêchement?
Je ne comprends pas. Précisez la question parce que je ne comprends pas d'où elle vient pour que je puisse y répondre. Quel kécher entre ne pas faire du mal à quelqu'un et se marier avec lui? Est-ce que j'ai dit qu'il faut aimer celui qui vit pas comme moi au point de faire un enfant avec lui? Ma kécher, comment vous passez de l'un à l'autre?
Vous avez posé tout à l'heure le mot intolérance.
Mais intolérance, c'est faire du mal à quelqu'un. Je ne vais pas créer ma vie avec quelqu'un qui est à ce point différent de moi. C'est toujours ça, ce passage qu'on a du mal à comprendre entre « je ne suis pas intolérant, mais pourquoi je vais faire ma vie avec toi ?»« Tu n'es pas comme moi, tu es différent de moi. Sois comme tu es, mais pourquoi je dois engager ma vie avec toi ?»« Pourquoi on va fusionner? Pourquoi on va faire un enfant ensemble? Pourquoi je me marierai avec quelqu'un qui incarne l'extrême opposé de ce à quoi je crois ?»
La preuve, on reconnaît
donc,
les noirs.
Mais maintenant, je ne vais pas te faire du mal parce que tu es différent de moi. J'ai simplement expliqué que la Torah refuse l'intolérance. Elle refuse le fait de faire du mal à celui qui ne te ressemble pas. Et alors de là, je vais sauter qu'on va se retrouver, dans la même maison. Non, je vais manger à ta table. Toi, tu manges du porc et moi, je mange kasher et je vais manger du porc parce que je ne te haïs pas. Quel est le kasher entre les deux? Mange du porc dans ton assiette et laisse-moi manger kasher dans mon assiette. Mais chacun mange dans son assiette. Bien sûr que la Torah refuse complètement la fusion de ce qui n'est pas pareil. Mais elle refuse avec la même sévérité l'exclusion et la méchanceté vis-à-vis de ce qui n'est pas pareil. Le juste milieu, c'est d'être entre les deux. Je ne mange pas dans ton assiette, d'accord? Mais je ne t'étouffe pas parce que tu ne manges pas dans la même assiette que moi.
T'as toute question pertinente.
Voilà, on continue.
Abraham a une relation quand même avec son fils Yitzhak. C'est le Chesed qui a une relation avec le Din, qui est l'inverse.
Nahon, une relation, tu peux avoir, bien sûr, une relation. Encore une fois, je veux dire.
C'est une relation.
Mais il a pas fusionné avec. Je veux dire, il a c'est pas quand son fils Yitzhak est né, il a continué lui à pratiquer le chesed. On n'a pas vu tout d'un coup Avraham se lever et dire bon maintenant puisque j'ai mis au monde Yitzhak, je change ma manière d'être, je vais être moi aussi un homme rigoureux, un homme de justice. Avraham est resté un homme de chesed jusqu'à la fin de sa vie. Ça l'a pas empêché d'avoir un enfant qui incarnait le contraire. Et ils se sont supportés, acceptés l'un et l'autre. Mais il n'y a pas eu de fusion idéologique. Ou le contraire aurait pu se produire. Yitzhak, qui est né avec une nature de Dieu, aurait pu dire, oh là, avec un père pareil, j'ai pas le droit d'exprimer ma tendance, je vais suivre celle de mon père. Non, il a dit, mon père, avec tout le respect, toi tu es chesed, moi je suis din.
La Akeda, c'est un échange des midot, puisque Abraham se force sur un terrain de din pour son intériorité, et Yitzhak, il se force sur un terrain de chesed où il donne sa manchande.
D'accord, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine kalelout, mais pas de disparition des midot. Voilà, donc on va continuer maintenant. Donc de la même manière, toutes les mitzvot que l'on fait sont dans cet esprit-là, de nous permettre donc des connexions qui vont, on pourrait dire, nous préserver du olam hatohu, nous préserver justement donc de ce dérapage qui provient du fait qu'on est trop rempli de lumière. Et on n'a pas suffisamment donc de réceptacle, et c'est pour ça qu'on devient après, comme on le dit en français, un illuminé. Ah. C'est ça le olam hatohu. Toutes ces religions ou tous ces idéaux qui sont sans les réceptacles de la Torah vont créer des illuminés, et ces illuminés après vont partir en guerre sainte contre le monde entier. C'est ça le olam hatohu.
C'est un premier niveau tohu, puisqu'il a précédé dans l'intolérance bien avant.
Bien sûr.
Donc l'Issab, est-ce que c'est plus affiné d'une certaine manière, parce qu'il y a une évolution l'histoire, on dit toujours qu'on avance. Donc est-ce que le niveau tôt de l'islam, il n'est pas malgré tout moins pas barbare, parce que c'est pas à ce niveau-là, mais il est au niveau de sa démarche rohanite, est-ce qu'il n'est pas moins Il y a quelque chose de un progrès ou une régression, si on peut dire. Une
autre. Je pense qu'il n'y a ni progrès ni régression. C'est ça le sort du tohu et du bohu. Quelqu'un dit alors bohu et j'ai pas relevé, mais c'est ça le sort du tohu et du bohu. Parce qu'en fait, ce monde s'appelle olam tohu ve bohu. Et le secret est que l'homme, olam tohu, c'est le christianisme, et le bohu, c'est le olam, c'est l'islam. Et c'est ça le sort de tohu et bohu. C'est les deux aspects, on pourrait dire, de l'illumination. Les deux aspects d'une religion sans réceptacle, sans limite. Et donc c'est pour ça que de toute façon le programme des deux est le même. Ou la conversion ou la mort. C'est le même programme. Maintenant pourquoi un s'appelle tohu et l'autre s'appelle bohu? Alors il y a une explication à ça aussi, mais c'est pas le moment. Peut-être qu'on va le faire le cours de jeudi. On va réserver ça pour jeudi, pour le cours de Chumash, puisque de toute façon on est en plein maintenant, en plein cours sur Esav, Ishmael, etc. Donc on verra la différence. Je vous dirai ce que dit Rashi, vous allez comprendre pourquoi. Ça sera la suite du cours qu'on a fait sur le fait que Esav n'est pas circoncis, il est un père circoncis, et le contraire pour Ishmael. Il est lui circoncis et né d'un père qui au départ n'était pas circoncis. On verra, c'est ça la différence entre le tôt et le bout. Donc c'est pas un problème de régression ou de progrès. En vérité, ils expriment en même temps, au même moment spirituel, parce que c'est pas le même moment historique, mais le même moment spirituel, ils expliquent deux formes finalement de deux formes de tôt ou deux formes d'explosion. Parce que comme je vous le dirais, on était dans cette explosion, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu une explosion au niveau du réceptacle, il y a eu une explosion au niveau de l'énergie elle-même. Quand il y a une explosion, en vérité, il y a deux phénomènes. Le réceptacle explose, mais l'énergie aussi, elle explose, puisqu'elle s'échappe et elle part dans tous les sens.
C'est quoi
donc, c'est les deux explosions qui sont inhérentes à toute explosion, d'accord ? C'est ça le saut du tohu et du bohu, c'est ce qui va donner naissance après au christianisme et à l'islam. L'un incarne l'explosion du réceptacle et l'autre incarne l'explosion de l'énergie.
Est-ce qu'il va être en origine de ce cours ?
Non, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Le christianisme est abstrait, donc il est. Bon, on verra. Ok, donc on continue maintenant. Tous les cours sont enregistrés, donc la question ne se pose pas. Alors on y va. Vesod adikna shesod kolatim tsumim le tsamtsem aor shitlabesh brinat kelim de yud svirot. Donc on a expliqué shesod kolatim tsumim. Donc le but final de toutes les contractions, le tsamtsem aor, c'est de contracter donc l'énergie. Afin que cette énergie accepte d'être contenue à l'intérieur donc des 10 réceptacles, des 10 sphirotes. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le sod du tikkun. C'est quoi le tikkun? C'est quand on arrive enfin à avoir une énergie qui est à l'intérieur d'un réceptacle. Dit au niveau d'un juif, qu'est-ce que c'est un juif metukan? C'est un juif qui pratique les mitzvot. Parce qu'il a compris que son sentiment d'être juif, il doit l'exprimer à l'intérieur d'actes concrets et ne pas rester, on pourrait dire, vaseux dans une abstraction qui n'a aucun lien réel avec les limites de la réalité. Quand un juif dit « j'aime Dieu » mais qu'il ne met pas les tefilines, à ce moment-là, il est dans le tohu total. Pourquoi ? Parce qu'il n'enferme pas, il ne limite pas son amour de Dieu dans un acte concret. Et donc, il est sans tikkun. Veine, achar shenitlabesh or ensof beprinat kelim. Alors maintenant, puisque le or ensof, le tikkun, c'est que cette lumière infinie doit arriver à se contracter jusqu'à ce qu'elle arrive à rentrer dans les ustensiles, dans les réceptacles, qui sont des ustensiles spirituels. On sait que les 10 sphirot commencent par Chabad, Chorma, Bina, Da'at et descendent après jusqu'à Malchut. Donc les premières contractions vont être, comme il le dit, Veine Achash Nitlabesh Orensov Beprinat Kelim. Après que le Orensov se soit donc contracté dans les premiers réceptacles qui s'appellent Chorma, Bina et Da'at, la contraction Chabad, Az Shayar Lomar, c'est seulement à partir de ce moment-là que l'on peut dire ce qu'on a vu hier au sujet du libre-arbitre, ce que dit le Rambam, Mashekatava Rambam, qu'est-ce que dit le Rambam? Ruayodea, que Dieu est en même temps celui qui sait, Veuamada, il est la chose connue, Veuayadua, et il est la connaissance elle-même. Ubiyediatatsmo, Et c'est en se connaissant soi-même qu'il connaît tout le reste. J'avais déjà expliqué que l'exemple le plus simple pour comprendre cette phrase très philosophique du Rambam qui ne veut rien dire en français, parce qu'en français ça ne veut rien dire qu'il est à la fois celui qui connaît la connaissance et la chose connue, ça ne veut rien dire en français, j'ai expliqué que le meilleur exemple, c'est un homme qui pense et qui se souvient. À ce moment-là, il refait venir à la surface de son cerveau une expérience vécue qui est à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, lorsqu'il revit la chose et la ressent, il est en même temps la chose qu'il connaît, la chose connue et la connaissance. Puisque tout est à l'intérieur de lui. On avait expliqué qu'au niveau de Dieu, même le futur est dans cet état-là, et c'était tout le cours d'hier, je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, ce qu'il dit ici, c'est que c'est seulement à partir de la contraction dans Chabad, c'est-à-dire dans les contractions qui sont déjà au niveau des sphirotes de Hatzilut, que là on peut dire qu'il y a une fusion totale entre le monde et Dieu. Rappelez-vous la fin du cours d'hier, parce que plus haut que ça, ça n'a aucun sens, puisque plus haut que ça, la lumière n'est pas encore suffisamment contractée pour dire que le monde a une place à côté de Dieu. Comprenez ? Et donc, automatiquement, pour dire que le monde se trouve, on pourrait dire, intégré dans Dieu, il faut donc dire que Dieu s'est déjà fortement contracté pour que le monde puisse avoir une place à ses côtés. Mais si Hachem se montre dans toute sa puissance et dans toute son essence, il n'y a même pas de place pour la pensée même d'une création. Parce qu'au niveau de l'essence de Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose que lui-même. Donc c'est pour ça que ce que dit le Rambam n'est vrai qu'au niveau des contractions qui sont donc dans Chabad de Hatzilut, les fiches et Bechinat Kelim de Hatzilut, parce que quand on arrive au niveau des réceptacles du monde de Hatzilut, Naasim Neshama Vechayut Lebiya. À ce moment-là, les réceptacles, ou plutôt les sphirotes du Olam Hatzilut, deviennent la Neshama, deviennent, on pourrait dire, l'âme, et l'énergie vivante, Chayut, les biyas des trois mondes qui suivent, qui sont Bria, Yetzira et Asiya. On sait très bien que les quatre mondes ont été créés sur le principe que chaque monde est l'âme du monde qui précède. Hatzilut est par rapport à Bria son âme, Bria est son corps, mais Bria est elle-même l'âme de Yetzira qui est son corps, et Yetzira est elle-même l'âme de Asiya qui est son corps. C'est-à-dire, c'est le système des poupées russes, que l'une s'emboîte dans l'autre, ou c'est selon le langage du Zohar qui ne connaissait pas les poupées russes, le phénomène de l'oignon. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un oignon ? Ce sont des épluchures successives que l'une est sur l'autre, et que l'épluchure de l'un est l'intériorité de l'autre. Ce qui est une épluchure pour l'un, c'est une intériorité pour l'autre, vous avez compris. Et donc, le monde est créé sur le principe de, on peut dire de, chaque étape de la création est à la fois intériorité et extériorité, âme et corps. Âme pour le monde qui suit et corps pour le monde qui précède. Et donc c'est une répétition infinie du même principe. Et donc c'est seulement à partir du monde de Hatzilut qu'on pourrait dire que naît véritablement l'existence telle qu'on la connaît. Parce que qu'est-ce que c'est l'existence telle qu'on la connaît ? Mais c'est effectivement une âme dans un corps. Et le principe de l'âme dans un corps a commencé avec Hatzilut. Hatzilut, c'est la première âme qui est rentrée dans le corps de Bria, qui lui-même est rentrée dans le corps de Yetzira, qui est rentrée dans le corps de Asiya. D'une certaine manière, on le retrouve dans l'homme. Car notre âme, la première, celle qu'on appelle l'âme, se trouve dans quatre enveloppes. Et je vais vous le montrer, quelles sont les quatre enveloppes corporelles. Non, physique véritablement, et c'est vrai aussi au niveau de l'âme, je ne vais pas trop compliquer, au niveau physique, les quatre parties du corps sont de l'extérieur vers l'intérieur, la peau, dans la peau la chair, dans la chair l'os, et dans l'os la moelle. Et donc on a effectivement quatre couches de corps à l'intérieur desquelles se propage une âme. De la même manière, l'énergie divine se propage dans quatre mondes qui sont l'un à l'intérieur de l'autre, l'un qui est plus profond que l'autre ou l'un qui est plus extérieur que l'autre. Et selon ce modèle, et c'est comme ça que les Mekoubalim m'expliquent, l'âme divine rentre dans l'homme, après elle se propage dans la moelle, après dans les os, après dans la chair, jusque dans la peau. Pourquoi ? Parce que en haut, il se passe exactement la même chose. Le Or En Sof rentre dans le premier monde qui est le Olam de Hatzilut, qui lui va jouer le rôle de moelle épinière, de la moelle osseuse, pardon, pas la moelle épinière, moelle osseuse, ce qu'on appelle le Moar en hébreu. Après, cette énergie va rentrer dans le Olam Abria qui sera l'os. Après, cette énergie va aller jusque dans Yetzira qui est la chair. Et vous comprenez pourquoi le Yetzerara et le Yetzeratov est au niveau du Olama Yetzira, qui fait allusion à la chair, car les Yetzarim, les pulsions de l'homme, sont au niveau de sa chair, bien sûr. Donc c'est pour ça que le Olama Yetzira fait allusion au monde de la chair. Et enfin le Olama Asiya, qui est la peau qui recouvre le tout. Et c'est pour ça que le Yetzerara est beaucoup plus fort dans le Olama Asiya que dans le Olama Yetzira. Pourquoi ? Puisque tous les plaisirs et tous les désirs sont au niveau de la sensation de la peau. Donc, les deux facteurs...
Pourquoi le Yetzerara serait au niveau de la chair et pas celui de la peau ?
Plus encore au niveau... Il commence au niveau de la chair et il s'exprime le plus fort au niveau de la peau. C'est pour ça que le Olama Asiya est encore plus soumis au Yetzarim que le Olama Briya, que le Olama Yetzira. Mais les deux, Yetzira et Asiya, font allusion à la chair et à la peau, qui sont les deux facteurs du plaisir, du désir, et donc de la faute dans certains cas, quand le plaisir n'est pas permis.
Mais ce qu'il a dit là, alors, il dit que dans Hatzilut, c'est l'équivalent de l'âme, c'est-à-dire c'est le niveau Chabad. Si on prend les quatre mondes, on retrouve les compositions qu'on avait étudiées, c'est-à-dire Hatzilut, Chabad, ou domine Chabad. Bria, c'est les trois autres en dessous, c'est-à-dire
Nachon,
Chagat, et après
Naï et Malchut, absolument. Chokma Bina Da'at, dans.
C'est un qui domine.
Et à chaque fois, en fait, c'est 3, 3 et 1 en vérité. Parce que dans le premier monde, c'est Chokma Bina Da'at. Dans le deuxième monde, c'est Chesed Gvura Tiferet. Dans Yetzira, c'est Netzar Od Yesod. Et enfin, dans Asiya, il n'y a qu'un seul attribut, si on peut dire, c'est Malchut. Mais c'est seulement les trois premiers, finalement, qui ont trois sphirotes. Il y a une raison profonde pourquoi les trois premiers ont trois sphirotes. Et j'ai, en vérité, sans deviner la question, j'ai déjà répondu à ça. Entre autres réponses, car il y en a des milliards. L'une des réponses, c'est que justement, que les attributs divins font allusion à une présence de lumière très très forte. Et dans le Olam Asiya, qui est par rapport, on pourrait dire, à la peau, où là, il y a le plus de présence, si on pourrait dire, de la matérialité, de la relation au matériel, puisque tout passe par l'effet de la sensation corporelle qui est au niveau de l'extériorité du corps, qui est la peau. À ce niveau-là, il n'y a qu'un seul attribut divin qui brille, c'est la malchoute, parce que à ce niveau-là, l'obscurité, on pourrait dire, de la matérialité est au plus fort. Et donc il n'y a plus qu'une seule lumière qui brille, c'est la malchoute.
Mais ça, c'est après la faute d'Adam Harishon. C'est après la faute d'Adam Harishon.
Non, même avant la faute d'Adam Harishon, c'était déjà comme ça, puisque les quatre mondes ont été créés déjà bien avant lui.
Il y avait une peau qui brillait.
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était déjà comme ça. Non, c'était déjà comme ça, mais, c'était pas tombé comme c'est tombé aujourd'hui. Ça veut dire c'était déjà comme ça, en ce sens que déjà avant la faute, il y avait une différence nette entre Asiya et Hatzilut. Mais malgré tout, les quatre mondes étaient encore dans la lumière. Avec la faute, tout s'est affaissé et la différence est tellement grande que quand on en arrive dans le Olam Asiya, on voit plus du tout la lumière. Mais malgré tout, déjà avant la faute, il y avait une différence énorme entre la lumière du Olam Asiya et la lumière du Olam Hatzilut. C'est-à-dire que le schéma fondamental n'a pas été créé par la faute, comme j'ai déjà expliqué. Tous ces schémas-là n'ont rien à voir avec la faute. Il faut comprendre une fois pour toutes que la faute n'a rien créé de nouveau. Elle a simplement fait un déplacement. Ça veut dire que, je vais donner un exemple extrêmement simple. Prenez trois niveaux, ou on pourrait donner quatre, d'hommes de relations par rapport à l'argent. Il y a celui dont le problème, c'est est-ce que je vole aujourd'hui ou non. Voler dans le sens, est-ce que je vais faire un hold-up. Un autre, est-ce que je vais être honnête dans les affaires ou non? C'est déjà une forme de vol, on pourrait dire plus subtile, parce que je ne prends pas vraiment dans la poche de l'autre, je fais ce que plus ou moins tout le monde fait. Un troisième qui est au niveau de, est-ce que je vais tout déclarer aux impôts ou non? Un quatrième, est-ce que je vais donner la tzedaka ou non? Un cinquième, et combien je vais donner de tzedaka, etc. Et après, le sixième, est-ce que je vais donner au-dessus de mes moyens? Donc, tout le monde a un problème avec l'argent, mais vous imaginez la différence qu'il y a entre celui qui est au niveau de se poser la question, est-ce que je donne plus que mes moyens, et l'autre, est-ce que je fais un hold-up ou pas? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'argent, mais est-ce qu'il est, on pourrait dire, dans les poubelles de ce monde, ou au niveau des justes et des tzadikines, tout leur problème, savoir s'ils vont donner plus que leurs moyens ou non. Mais il y a un problème fondamental qui est la relation avec l'argent. De la même manière, tous les problèmes que nous rencontrons sur Terre existaient déjà bien avant la faute d'Adam Harishon. Simplement, Adam Harishon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a affaissé le problème dans les poubelles. Ça veut dire que maintenant, l'homme se débat avec des problèmes qui ne sont pas de son rang, qui ne sont pas dignes pour lui. Est-ce que je me mets en colère? Je ne me mets pas en colère. Est-ce que je mens ou je mens pas? Quand on sait, par le fait qu'on étudie un petit peu les secrets de la Torah, quand on sait tout le potentiel qu'il y a dans un homme, et qu'on voit que l'homme, son seul souci de savoir si je me venge ou je me venge pas, on se dit, mais comment une telle lumière a-t-elle pu tomber à des niveaux aussi bas? Ça, c'est la résultante de la faute. Mais les schémas fondamentaux, comme on les explique ici, ont toujours existé. Et existeront d'ailleurs toujours. Il y aura toujours une différence entre le monde de Assia et le monde de Hatzilut.
C'est ce que vous disiez, que c'est voilà. Rare, que la Géoula, il sera plus raffiné.
Il sera plus raffiné. Ça veut dire que le problème, ça sera plus, admettons, est-ce qu'on vole ou pas, car ça ne nous viendra même pas à l'idée. Le problème, ça sera, est-ce qu'on donne juste ce qu'on doit donner, ou on donne plus que ce qu'on doit donner. C'est ça ce qui fera la différence entre deux hommes. Un donne son maaser, et l'autre dit, allez, moi je vais donner 15%, je ne vais pas me limiter à 10, grâce à Dieu, je peux aussi vivre avec 15%, en donnant 15%. C'est ça la différence. Mais aller voler, les gens comprendront même plus ce que ça veut dire. Voler quoi? Voler qui? Ça veut dire quoi le mot voler? On ne connaît pas. Mais il y aura toujours, malgré tout, une différence entre les hommes, donc entre les gens.
Dans le schéma arabe que vous avez proposé,
oui.
3-1, avant d'arriver au Etra, c'est-à-dire à Malfou, il y a l'unité dans la SIA, on voit bien que c'est d'une certaine manière pour éliminer l'hypothèse du Tov et Vohu, puisque les trois, à chaque fois les trois sphérotes, c'est des deux contraires et une synthèse. Et à chaque fois, on sort de la dichotomie à trois reprises.
Nahon, c'est-à-dire.
Donc, c'est-à-dire, ça c'est comme des filtrages pour éloigner le risque de l'opposition frontale.
D'accord.
C'est qu'après qu'on arrive au 1.
Absolument. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continue.